Comment créer un modèle de performance à distance? Notre métier, c'est d'accompagner des grandes organisations dans la définition, la formalisation et surtout le déploiement de leurs grands projets de transformation. Ça veut dire être capable de passer de l'intention à l'action en réussissant à mobiliser des larges populations de collaborateurs. Et évidemment, depuis maintenant plus de 2 ans, on intervient beaucoup sur des problématiques de définition et de mise en œuvre du futur du travail au sens large. Donc à la fois ce qui concerne le modèle de télétravail, la définition de nouvelles organisations en miroir de ça, la question du réaménagement des locaux suite à la mise en place du flex office, etc. Alors si on prend un petit peu de recul par rapport à la période qu'on vit, ce qui est intéressant, c'est de voir que les organisations ont sauté le pas du télétravail généralisé du fait de la crise sanitaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même si cela fait 2 ans qu'on est dans une situation de crise sanitaire, on voit que les organisations continuent de s'interroger et ont du mal à définir une cible claire sur leur nouveau modèle de télétravail. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans la plupart des organisations, on est passé à un mode télétravail en improvisation. Alors, pour parler un peu comme un consultant, ce qu'on observe, c'est une confrontation du run et du change. Donc, le run, c'est vraiment la façon dont on expédie les affaires courantes, donc notre capacité à maintenir l'activité par rapport au change, donc tout ce qui concerne la transformation, l'innovation, notre capacité à créer des nouveaux produits et des services qui est, pour le coup, mise à mal. Un élément qui est important aussi, c'est que plus personne n'a besoin d'être convaincu par le passage au télétravail. On sait que pré-crise sanitaire, il y avait beaucoup de freins au niveau top management. Les dirigeants qui sont contre ont pris conscience que leur position était devenue intenable, d'abord du fait des contraintes qu'on a en ce moment, mais aussi sur ce que ça peut avoir comme impact pour retenir ou attirer des nouveaux talents. Ce qu'on note aussi, c'est que les situations sont compliquées, évidemment très diverses. Si je prends deux extrêmes hein, de populations qu'on a vues en difficulté, entre, on va dire, le profil plutôt senior qui peut se sentir très isolé, que le profil senior qui serait à la limite du burn-out en s'interrogeant sur le sens de son travail quand il n'est pas sur site, et puis de l'autre côté, des parents de jeunes enfants qui n'arrivent pas à les gérer, on voit que les situations sont évidemment très différentes. Et pour les employeurs, il y a cette complexité de prendre en compte l'ensemble de ces situations. Si on regarde deux chiffres qu'on trouvait intéressants, qui sont des chiffres récents, hein, une étude de Cevipof de cette année, plus de la moitié des collaborateurs pensent ne pas être assez accompagnés sur ce sujet. Et ce qu'on note aussi, c'est que une vaste majorité des collaborateurs, donc près de 90%, 88%, souhaiteraient une approche plus flexible du télétravail. Donc ça pose des vraies questions et Lucie abordera ça. Sur comment, au-delà de juste la définition de quelques jours de télétravail, qu'est-ce que ça veut dire la mise en place d'un télétravail agile? On voit évidemment que les pratiques sont nettement perfectibles. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que les organisations continuent de s'interroger. Et le dernier élément, c'est que cette flexibilité du travail qui est attendue est un sujet clé pour attirer les talents. Un dernier chiffre, nous, on a mené une petite étude flash à l'ESCP chez qui on intervient. Et on voit que pour 85% des jeunes diplômés, la politique de télétravail est un critère déterminant dans le choix du futur employeur. Donc, si on voit aussi un autre élément qui est important, c'est de prendre un petit peu de recul et de voir quelles sont les questions, les enjeux clés pour les différentes populations, les questions clés à adresser. Et on voit que ces questions, on les retrouve à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au niveau du top management, des managers, des collaborateurs ou des représentants du personnel. Si on fait un petit focus sur le top management, qu'est-ce qu'on observe? On observe évidemment une grande inquiétude sur le télétravail et plus globalement le futur du travail et la notion de performance. Avec ce que j'évoquais précédemment, de confrontation entre cette capacité à expédier des affaires courantes et la capacité à continuer à être innovant. J'avais un exemple concret que je trouvais très intéressant, le patron d'une grande entreprise de leasing, qui me disait que voilà, c'était un peu en trompe-l'œil parce qu'on avait pu noter une augmentation de la productivité de ces analystes crédit, qui sont dégagés d'un certain nombre de réunions qui peuvent vraiment se focaliser sur leur travail, mais dans le même temps, un vrai sentiment de perte de l'innovation en disant bah, d'un autre côté, niveau marketing, j'ai l'impression qu'on me propose beaucoup moins de choses qu'avant. Donc, cette notion de performance est un vrai sujet d'interrogation pour le top management. L'attractivité, je l'ai un tout petit peu évoqué, donc c'est évidemment un sujet clé, surtout en ce moment. Là, vous l'avez probablement vu depuis la rentrée, on voit qu'il y a une vraie guerre des talents, qu'il y a une inflation très forte au niveau des salaires. On a d'ailleurs fait un webinaire sur le sujet il y a pas longtemps. Et on a la conviction profonde que ceux qui n'ont pas de proposition de valeur claire sur le sujet auront du mal à conserver leurs talents et surtout à en attirer de nouveaux. Il y a aussi la question de l'engagement qui est essentielle, puisqu'on a une perte du lien affecto-sociétatis. On a une perte aussi du contrôle sur l'activité des collaborateurs. Donc, comment on maintient du lien, comment on maintient l'engagement? Et c'est une lourde tâche pour le management de proximité. Et on aura l'occasion de faire un petit focus sur ce management de proximité qui est vraiment mis à rude épreuve par rapport à l'ensemble de ces enjeux. Ça pose aussi un certain nombre de questions très pratiques sur le mode opératoire. C'est quoi l'équilibre présentiel-distanciel? Quelles sont les activités qu'on peut faire à distance par rapport aux activités qu'on doit faire sur site? Comment on rend un certain nombre de processus hybrides compatibles? Là encore, on a la conviction qu'on doit évidemment définir un cadre, mais qu'il n'y a pas de solution unique pour l'ensemble des équipes, et on y reviendra un petit peu plus tard sur nos approches. Le sujet des RPS, qui devient un sujet clé, notamment pour le manager de proximité, c'est vraiment un nouveau sujet à son agenda. L'ensemble des organisations lui demandent de jouer un rôle par rapport à ça, ce qui est loin d'être évident pour lui parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et sur lequel il est généralement assez démuni. Et enfin, l'embarquement des organisations syndicales est évidemment essentiel. On leur en demande beaucoup. Je pense qu'il y a un certain nombre de juristes autour de la table virtuelle. Enfin, il suffit de voir les ordres du jour des CSE en ce moment, avec pléthore d'accords. Et donc, il convient évidemment de les aider pour réussir à prendre le sujet de manière globale, mais on aura l'occasion d'y revenir. Si on regarde maintenant du point de vue des managers, donc il y a évidemment un enjeu clé pour les managers sur comment on maintient une équipe performante, engagée et motivée. Et le suivi de l'équipe et la performance et la mesure de la performance changent. Donc, il faut vraiment qu'on aide les managers à définir des nouveaux rituels, définir des nouvelles modalités d'animation d'équipe qui soient vraiment adaptées à ce contexte. Pour eux, c'est un changement de paradigme et il est illusoire de penser qu'ils pourront seuls définir un modèle qui correspond vraiment à la fois à leurs attentes et aux attentes de leurs collaborateurs. Le manager, et notamment le manager de proximité, voit son rôle perturbé. Nous, on estime que c'est la fonction qui a le plus souffert, notamment parce que dans un certain nombre de cas, sa légitimité a pu être remise en cause. Ce qu'on observe, c'est que chez nombre de nos clients, il y a des processus de délégation efficaces qui ont été mis en œuvre et qui ont amené à s'interroger sur la pertinence de la validation par certains niveaux managériaux et donc même sur l'utilité de leur rôle. Pour certains, c'est une vraie remise en question et donc il faut les aider à les positionner sur un vrai rôle de valeur ajoutée d'accompagnement des équipes. Et ça implique un changement de posture assez profond, évidemment. Le manager se retrouve aussi dans une situation complexe parce que c'est vraiment lui qui est garant de la continuité de service. Alors, pour expliquer un peu cette idée, avant la période de télétravail subi, l'assemblage des différentes tâches se faisait simplement parce qu'il était en présentiel. Maintenant qu'il est en distanciel, c'est évidemment beaucoup plus complexe à gérer. Enfin, il y a cette nécessité pour le manager de définir avec son équipe, enfin ça c'est vraiment notre conviction, dans un cadre donné par l'entreprise, les modes de fonctionnement qui sont le plus appropriés aux contraintes de son équipe, à ses propres enjeux business. Donc, ça implique ce qui est fait à distance ou pas, les modalités de présence, les modalités d'occupation d'espace, les rituels pour communiquer et notamment pour assurer l'esprit d'équipe. Donc ça, c'était pour vous brosser sur les enjeux sur la partie top management et manager.